Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde. Retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à New York où Donald Trump, depuis la Trump Tower, peaufine son équipe et sa politique. Berlin, les adieux européens de Barack Obama et cet hommage appuyé à Angela Merkel. Londres avec Theresa May qui semble-t-il patauge dans la gestion du Brexit. Et puis Mossoul, est-ce qu'une catastrophe humanitaire se profile alors que l'offensive entre dans son deuxième mois? C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Philippe Moreau-Desfarge, chercheur à l'IFRI. Bonjour Philippe.
Bonjour Fabrice Lundy.
Auteur de la géopolitique pour les nuls, de l'histoire du monde pour les nuls. Vincent Hugeux est avec nous également. Bonjour Vincent.
Bonjour Fabrice.
Grand reporter à l'Express et on le rappelle évidemment, le roman vrai des Premières Dames, les Reines d'Afrique en livre de poche. Et puis bien sûr tous ces grands reportages dans l'hebdomadaire L'Express. Alors est-ce qu'on y voit plus clair sur les intentions de Donald Trump justement, bien lorsqu'il deviendra président à partir du 21 janvier prochain? Alors depuis sa tour à New York, la Trump Tower, donc je vous le disais, le milliardaire consulte notamment par téléphone des dirigeants étrangers, Xi Jinping, il reçoit, il prépare son équipe, il affine son projet, allez, il promet 10 lois pour les 100 premiers jours. Alors réduire l'impôt sur les sociétés, 35 à 15%, ramener de 7 à 3 le nombre de tranches d'impôts, rétablir des barrières douanières, mais plus forcément aussi fortes avec le Mexique et la Chine. Et puis, première interview en tant que président élu, c'était dimanche soir sur CBS. Retour sur sa promesse de renvoyer 11 millions d'immigrés. Bon, il revoit quand même ce chiffre à la baisse.
Ce que nous allons faire, c'est prendre les immigrés qui sont des criminels, qui ont des casiers judiciaires, qui appartiennent à des gangs, qui sont des trafiquants de drogue. Ils sont sans doute 2 millions, peut-être 3. Nous allons les renvoyer de notre pays. Ils sont ici illégalement. Et une fois la frontière sécurisée, que tout sera rentré dans l'ordre, nous aviserons pour les autres sans-papiers.
Bon, alors, il parle plus de 11 millions, mais de 3 millions, les plus durs, hein, les gangs, notamment les criminels. Alors, on le voit, il essaie de montrer peut-être un visage plus conciliant, toute proportion gardée. Tiens, aussi, par exemple, il ne veut pas revenir sur le mariage gay. Mais en même temps, eh bien, le dur de la campagne demeure. Hein, nouvelle offensive contre l'avortement, l'immigration notamment. Vincent Hugeux, pragmatisme, mais pas forcément de reniement.
Certainement pas. Ça s'appelle la résistance du réel. La résistance du réel, ça signifie qu'il y a des propos de campagne, des slogans mis bout à bout. Vous savez, Donald Trump, au fond, c'est un bonimenteur. Et dans bonimenteur, il y a menteur. Il a élevé, comme d'autres avant lui, comme d'autres après sans doute, le mensonge au rang d'art suprême. Bien. Eh bien, la résistance du réel, ça veut dire que on est contraint au pragmatisme, que ça plaise ou pas. Que dit un conseiller de Donald Trump à Shinzo Abe, le premier ministre japonais qu'il vient de recevoir? Il lui dit, vous tracassez pas trop. Il y a les promesses de campagne et puis il y a la politique qui vient. Je prends deux exemples très simples. Vous vous souvenez que pendant la campagne, il considérait que l'accord nucléaire, l'un des rares succès de son prédécesseur Barack Obama en politique internationale, l'accord nucléaire avec l'Iran, était un désastre. Et que, je le cite, priorité numéro un, le démanteler. Oui, mais l'ennui, c'est que c'est pas un accord bilatéral. C'est un accord multilatéral et qui, en plus, a été entériné par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pourrais dire la même chose, COP21. Vous vous souvenez aussi de ses propos. Il a quand même nommé, à titre transitoire, car il veut évidemment démanteler celle-ci, à la tête de l'Agence nationale de l'environnement, un climato-sceptique impénitent, ce qu'il est aussi lui, puisqu'il considère que, je le cite là encore, l'hypothèse d'une responsabilité humaine dans le réchauffement climatique procède d'un canular. Bon, donc voilà. Et donc, il va quand même se cogner à ces réalités-là. Mais je vous rejoins, Fabrice, sur un point. C'est que n'imaginons pas pour autant qu'il va nous produire une politique comparable ou analogue à celle de son prédécesseur, notamment sur l'échiquier international. On y reviendra tout à l'heure. Ce qui importera, c'est de savoir qui sera placé au poste clé de la diplomatie.
On va en reparler dans un instant. Oui, pragmatisme aussi. Il a eu raison de rappeler l'accord sur le nucléaire sur l'Iran. Philippe Moreau-Desfarge, je peux prendre un autre exemple, hein, puisqu'ils se sont parlé au téléphone, je le disais, avec Xi Jinping. Souvenons-nous ce qui était dit pendant la campagne électorale. La Chine traitée d'ennemi durant la campagne. Bon, finalement, les deux hommes se mettent d'accord pour convenir de contacts étroits.
Non, si vous voulez, c'est vrai que Donald Trump prend conscience d'un certain nombre de réalités. La question, c'est que en politique étrangère, Il ne semble pas connaître grand-chose. Il a vécu aux États-Unis, c'est un homme américain qui vit sur la société américaine. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a quand même une vision derrière ça ou une ligne ? Il y a quand même une certaine vision. C'est-à-dire il y a une ligne de repli des États-Unis sur eux-mêmes, de protectionnisme. Alors, bien sûr, il s'ajuste au réel, sur l'histoire du mur avec le Mexique, il y a un ajustement au réel. Mais néanmoins, il y a une ligne. Et c'est toujours la question, face à un inconnu, c'est est-ce qu'il gagne du temps pour malgré tout appliquer son programme, ou est-ce qu'il s'ajuste, est-ce qu'il va être un véritable pragmatique? Et de ce point de vue-là, la réponse reste ouverte, elle reste ouverte.
Vincent Hugeux, l'Express.
Oui, alors, le prurite isolationniste qu'incarne Donald Trump, en fait, n'est pas né avec lui. Prenons le cas emblématique de l'Alliance Atlantique. Vous savez que dans campagne, il a dit « Il est anormal que ce soit vous, les contribuables américains, oublions au passage que lui n'a jamais payé d'impôts, je ferme la parenthèse, supportiez le coût de la défense, ils ont qu'à se défendre eux-mêmes. » C'était vraiment ça, sa rhétorique. Bien. Eh bien, quand vous regardez effectivement ce qui advient de l'Alliance Atlantique, vous apercevez que au fond, il va devoir composer, qu'il va devoir aussi discuter avec des partenaires, mais ce qui m'intéresse le plus sur la question de l'Alliance Atlantique, c'est que Donald Trump séduit son électorat en disant que ces gens-là se défendent eux-mêmes. Il dit la même chose d'ailleurs du Japon. Notre aide est beaucoup trop lourde. Mais malgré tout, il ne va pas pouvoir modifier l'ordre du monde. Et puis, voyez, l'Union soviétique, je le fais évidemment
c'est
à dessein,
bien sûr.
La Russie, c'est un clin d'œil. Bien. Avec Vladimir Poutine, il s'est prévalu en quelque sorte une sorte d'admiration réciproque. Mais tout ça est très illusoire, c'est de la rhétorique. En Vladimir Poutine, il voyait celui qui accablait en quelque sorte la faiblesse d'Obama, comme Poutine voyait en lui l'homme qui était la traduction de l'échec historique et de l'humiliation de l'Amérique. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment revisiter ça à l'aune de ces considérations.
Philippe.
Vincent, j'ai évoqué, un mouvement de fond. C'est vrai que la logique de Donald Trump, elle est déjà présente chez Obama. Regardez l'affaire du repli face à l'Alliance Atlantique, et il y a un cas très important qui est l'affaire de la Syrie, où Obama dit très clairement « Nous n'irons pas en Syrie ». Et de ce point de vue-là, Trump reprend un petit peu une certaine logique de la politique Obama.
Alors, l'amplifiant, burden sharing, ouais. Le fait de devoir partager le fardeau, c'était déjà présent dans la rhétorique des républicains mainstream, courant centriste, je dirais, mais également chez Obama.
Alors justement, tiens, on voit dans ses nominations, on voit également, dans sa politique qu'il annonce, comment il essaye de ménager quelque part toutes les franges de son camp, le camp républicain. Alors le premier de son équipe à être nommé, à avoir été désigné, c'est le futur secrétaire général de la Maison Blanche, le fameux Chief of Staff, Reince Priebus, président du Comité National Républicain, c'est-à-dire la plus haute instance du parti. Allez, on va dire c'est le côté modéré, c'est un petit peu le côté « je fais plaisir à mon camp ». Et puis, comme haut conseiller, chef de la stratégie, le désormais célèbre Steve Bannon, personnalité d'extrême droite très influente, c'est son directeur de campagne. C'est le côté dur. Là aussi, Vincent Hugeux, il joue les équilibristes, Donald Trump.
Il ne peut pas, là encore, se renier vis-à-vis de son électorat. Il ne peut pas nommer exclusivement des gens qui auraient pour vocation de rassurer de vieux caciques du Parti républicain qui l'a, ne l'oublions pas, tant méprisé avant de reprendre son sillage en volant au secours de la victoire. Mais Steve Bannon, c'est très préoccupant, sans porter de jugement de valeur un peu pulsionnel. Parce que c'est quand même quelqu'un qui, à la tête d'un site qui s'appelle Breitbart, a véhiculé une idéologie suprématiste, suprématie de la race blanche,
xénophobe,
raciste, homophobe, antisémite. Bon, et s'assumant comme tel. Donc, certes, il a joué un rôle clé puisqu'il a été propulsé dans une période de grande turbulence en août dernier,
vers la fin, oui,
à quelques longueurs de l'échéance électorale, au poste de stratège en chef. Donc, il y a une rétribution qui est nécessaire et logique. Mais franchement, je ne crois pas à une conversion touchée par la grâce, etc. Il y a d'autres noms qui circulent et qui sont tout à fait crédibles pour le Département d'État.
Ah oui, très préoccupant.
Qui est une clé. Mais on y va, mais j'en retiens ça.
On y reviendra nécessairement la semaine prochaine quand on aura les nominations. Alors, on avance, 7 jours dans le monde, parce que Barack Obama, lui, il est toujours président, jusqu'au 20 janvier, bien entendu. Et il fait sa tournée d'adieu, en quelque sorte, l'Europe avec Athènes et Berlin. Il y avait que deux étapes, étape remarquée à Berlin. Et l'endroit, il n'a pas été choisi par hasard, vous allez m'en parler, Philippe Moreau-Desfarges, Vincent Hugeux. Hommage appuyé à Angela Merkel, une partenaire extraordinaire.
Chancellor Merkel has been one of my most important partners. La chancelière Merkel a été l'une de mes plus importantes partenaires durant ma présidence. Elle a des qualités qui, je pense, ont servi non seulement l'Allemagne, mais aussi l'Europe et le monde. Elle est honnête, elle est forte, elle fait son travail et connaît les problèmes.
Voilà, il disait même, Barack Obama, qu'il voterait pour elle en 2017, si bien sûr il était allemand, et si bien sûr elle se présente effectivement pour un quatrième mandat. Philippe Moreau-Desfarges, la capitale de l'Europe, et il n'y en a qu'une maintenant, c'est Berlin.
Attendez, Fabrice Lundy, il ne faut pas oublier l'étape d'Athènes. Il a commencé par Athènes. Oui. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a dit, l'Union européenne ne peut pas abandonner la Grèce. Oui. L'Union européenne doit assumer...
Comme il l'avait déjà dit, hein, oui, il était intervenu, justement, assez frontalement contre l'Allemagne pendant la crise grecque il y a trois ans.
Le passage à Athènes est extrêmement important, et c'est un signal fort qui veut donner à l'Union européenne un signal de solidarité des Européens entre eux. Alors venons à Mme Merkel. Évidemment, Mme Merkel est véritablement la grande homme d'État ou la grande femme d'État aujourd'hui en Europe. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. La difficulté, c'est que, premièrement, elle est depuis 11 ans au pouvoir, et... Le pouvoir, ça use. Et elle, quelque part, elle est usée par le pouvoir. Deuxièmement, elle n'est plus tout à fait en harmonie avec son opinion publique. Donc, Madame Merkel, qui va probablement vouloir exercer un quatrième mandat, va le faire dans des conditions difficiles. Est-ce qu'elle pourrait être le leader de l'Europe? Ça sera très difficile.
Dans un contexte, évidemment, de migrants, évidemment, voilà, dans un contexte de montée du parti populiste, AfD, crédité de 15% des sondages. Mais pardon, j'en reviens. La capitale de l'Europe, aux yeux d'Obama, maintenant, c'est Berlin. C'est là que vendredi, les dirigeants européens sont venus également dire au revoir à Obama. Les Français, les Espagnols, les Italiens, les Britanniques.
Je ne suis pas sûr que ce soit la capitale de l'Europe. Nous sommes dans un monde beaucoup plus complexe. Et pour terminer sur Mme Merkel, n'oubliez pas qu'elle est quand même, elle vient d'une époque révolue. Elle est venue au pouvoir à une époque, je dirais, d'euphorie au cours de croyance dans un nouvel ordre du monde. Alors on entre dans une époque difficile. Et là, ça va être très difficile. Non, je crois que Berlin ne sera pas vraiment la capitale de l'Europe.
Vincent Hugeux.
Petite nuance là-dessus, je crois que Berlin le sera par défaut. Le Brexit fait que la relation bilatérale, historique et traditionnelle va être recomposée, mais c'est un invariant de la politique américaine. Mais par ailleurs,
et puis,
je trouve que symboliquement...
La faiblesse française aussi.
Symboliquement, il est intéressant quand même de voir que Barack Obama, évidemment, vient canoniser de manière laïque Angela Merkel à Berlin et laisser venir à moi les petits chefs d'État, c'est-à-dire au Premier ministre, dire que les adieux, il les fait à Renzi l'Italien, à Rajoy, l'Espagnol, et à Hollande, le Français, à Berlin. Oui, ouais. Donc c'est d'une certaine manière... Ce qui rend les choses, d'ailleurs, bien compliquées, outre l'usure du pouvoir que vous mentionniez, dans l'hypothèse d'un quatrième mandat de chancelière, il est le fait que Angela Merkel risque de se retrouver en tête-à-tête avec Vladimir Poutine, si effectivement il y a un rapprochement entre les États-Unis et Moscou. Et puis, effectivement, on va... lui reprocher à nouveau sa politique d'ouverture, sa politique migratoire. C'est pas simple pour elle.
Mais attendez, il va y avoir aussi le tête-à-tête Trump-Merkel. Et là, ça va être un tête-à-tête très difficile parce que Mme Merkel, elle est attachée à l'Alliance Atlantique, à une Alliance Atlantique présente et forte. Et elle va trouver un homme qui probablement est sur une logique isolationniste, enfin, de repli.
Ça tombe bien ce que vous dites parce que quand on lit certains éditorialistes de la presse anglo-saxonne, comment Merkel est-elle présentée désormais comme la gardienne des valeurs libérales occidentale. Elle prend quelque part la suite d'Obama et surtout Obama, en venant voir Merkel, dit « Ce n'est pas Donald Trump désormais, c'est vous Angela. »
Est-ce que la presse anglo-saxonne est totalement neutre? Je crois que dans cette prise de position en faveur de Mme Merkel, la presse anglo-saxonne, je dirais, exprime une inquiétude, un désarroi. Le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne, les États-Unis sont sur un repli isolationniste. Il faut maintenant être pro-européen et Mme Merkel, c'est l'Europe.
Ouais, justement, l'Europe et Barack Obama, les relations n'ont pas toujours été sympathiques, souvent conflictuelles. Vous avez rappelé donc l'histoire de la Grèce. On a rappelé tout à l'heure l'histoire de la Grèce. Hein. Il y a eu les affaires des écoutes de la NSA. On a eu Barack Obama tourner quand même dans un premier temps vers l'Asie. Et il a été contraint ensuite de s'y intéresser à nouveau avec l'Ukraine, avec les batteries de missiles antimissiles. Donc, eh bien. En Roumanie, en Pologne, dans les pays baltes.
Oui, mais n'oubliez pas que la relation entre Barack Obama et Angela Merkel était une relation qui est devenue exceptionnelle. Il y avait une véritable amitié, une complicité. Quand on voit les photos entre les deux individus, c'est impressionnant, là, cette complicité. Alors, premièrement. Deuxièmement, oui, les États-Unis ont été obligés de se réintéresser à l'Europe. À nouveau, c'est l'inconnu Trump. Qu'est-ce que va faire Trump vis-à-vis de l'Europe? On peut avoir une vision optimiste, raisonnable, disant Trump va redevenir dans le mainstream de la politique étrangère américaine. Ce n'est pas certain du tout. Ce n'est pas certain du tout.
Vincent Hugeux.
Il y a d'ailleurs, sans abuser de notre sens de la perversité, quelque chose d'embarrassant pour Angela Merkel à recevoir un tel hommage. L'hommage de celui qui incarne une Amérique dont on disait qu'elle avait perdu le contact avec le peuple réel. Donc, d'une certaine manière, ça va être peut-être un fardeau de plus pour Angela Merkel d'apparaître. Alors, vous citiez d'ailleurs, Fabrice, un édito du New York Times où on disait qu'effectivement, elle était désormais la seule avocate des valeurs occidentales. C'est quand même un barda assez lourd à porter.
Exactement. La pauvre, on l'a plein.
Il y en a une en ce moment qui a un sacré fardeau sur le dos. Hein. C'est Theresa May, hein, la première ministre britannique. Parce que c'est vrai que c'était l'autre surprise de 2016. On a eu l'élection de Trump, donc il y a une dizaine de jours. Et puis, fin juin, il y avait eu le Brexit, changement de Premier ministre cet été. Et un rapport, donc, qui aurait dû rester confidentiel, a priori, un rapport de Deloitte, a été révélé par le Times cette semaine. Alors, pour simplifier, qu'est-ce qu'on y lit ? Il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas assez d'effectifs pour se pencher sur ce dossier titanesque. Normalement, tout devrait être lancé au mois de mars pour un départ normalement du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2019, sauf que eh ben voilà, c'est l'impréparation la plus complète. Qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que ça montre?
Alors, ce que je trouve
ça a surpris tout le monde.
Très symptomatique, ouais. C'est que certes, Theresa May a réaffirmé qu'il y aurait déclenchement de l'article 50 à la date prévue, mais elle a un mémoire en défense qui me laisse un peu perplexe. C'est-à-dire qu'elle dit nous avons un plan. Ce plan, alors là on attend, évidemment avec fébrilité, c'est d'obtenir le meilleur accord possible et de retrouver le contrôle de l'immigration. Ça s'appelle pas un plan, ça s'appelle pas une feuille de route, ça s'appelle une pétition de principe. Donc pour moi, en creux, c'est un aveu. Oui, effectivement, il y a un degré d'impréparation. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, au passage, clin d'œil, l'économie britannique de faire preuve d'une vigueur inattendue.
Philippe Morodet-Farge, ça a surpris tout le monde ce Brexit au point que personne n'est préparé, au point qu'on nous dise qu'il faudrait jusqu'à 30 000 fonctionnaires supplémentaires pour préparer les différents scénarios, les plans.
Ce qu'on n'a pas voulu voir, c'est que le Royaume-Uni est complètement intégré à l'Europe. Le Royaume-Uni est dans les communautés urbaines depuis 1973, et cette intégration dans l'Europe, ce n'est plus de la politique étrangère. Si vous voulez, on imagine les rapports entre le Royaume-Uni et l'Union européenne entre deux entités souveraines. Non, le Royaume-Uni, qui le veut, est complètement intégré à l'Europe. Moi, je vous dis une chose, je peux me tromper, dans les scénarios possibles, le Brexit peut faire pchit. Le Brexit peut faire pchit. Ouais, c'est vrai que le peuple britannique a voté pour la sortie.
C'est intéressant, parce qu'en effet, il y a ces retards de préparation. Oui. Il y a aussi l'écueil de la Cour suprême britannique qui va être amenée à trancher début janvier. En tout cas, son avis public sera rendu début janvier. Savoir si, oui ou non, le Parlement doit être consulté, parce que Theresa May ne voulait pas que le Parlement soit consulté sur le Brexit après coup. Et si le Parlement est consulté, et si, imaginons que le Parlement dise, finalement, on n'a peut-être plus forcément envie de quitter le Royaume-Uni, l'Union européenne, je ne sais pas ce qui peut se passer.
Alors, Vincent Hugeux. Cela dit, beaucoup des ténors de la Chambre, y compris ceux qui sont hostiles à cette rupture, à ce divorce avec l'Europe, considèrent qu'ils ne peuvent pas aller
reculer, bien sûr, du peuple, du référendum.
Le vrai souci, c'est que s'il y a aujourd'hui une embellie économique, elle est, de l'aveu d'experts bien plus compétents que moi, relativement illusoire, au sens où le prix à payer, les arriérés, ce sera 2017.
Oui, mais c'est bon.
Nécessairement. Ça peut prendre du retard.
Attendez.
Elle va être obligée de revoir sa stratégie, son calendrier, Madame May.
Oui. Elle est clairement tiraillée entre, d'un côté, une logique assez souverainiste, une logique indépendantiste de ramener le Royaume-Uni à lui-même, et puis de l'autre côté, c'est cette intégration qui est extrêmement forte. Donc, d'autres obstacles risquent d'apparaître. Il y a déjà ces recours qu'on n'imaginait pas, mais il y aura d'autres choses.
Elle peut échouer au point qu'il y ait de nouvelles élections ou pas ?
Tout est possible en politique. Tout est possible en politique.
Moi, je me souviens, il y a deux semaines, vous étiez venu dans 7 jours dans le monde, Philippe Morodet-Farge, et vous nous aviez dit, quand je vous avais demandé votre pronostic sur l'élection américaine, Donald Trump peut ne pas perdre. Voilà, c'est ce que vous m'aviez dit de façon prudente. Non seulement il n'a pas perdu, mais il a même gagné.
Y compris avec 1,5 million de voix au dernier décompte, de moins que sa rivale démocrate Hillary Clinton.
Juste, mais ça, c'est le système américain qui fait que c'est un État fédéral et que c'est un système de grands électeurs. Bien sûr, Vincent.
Il faut être très prudent.
Toujours. Alors oui, juste, toujours en rapport avec l'élection de Donald Trump et le continent européen, quelles conséquences pour l'Ukraine qui comptait quand même sur le soutien d'Hillary Clinton, sur l'envoi éventuel d'armes, justement, contre les rebelles séparatistes pro-russes. Comment Donald Trump il va gérer cette situation ?
Alors, premièrement, il y avait une illusion Clinton. Imaginez que Hillary Clinton aurait été capable d'être très active en Ukraine. C'est une illusion, car il y a une volonté américaine de se retenir. Bon. Dans le cas de l'Ukraine, c'est clair que, malgré tout, l'Ukraine Elle est dans la sphère russe. On ne le dira pas comme ça, mais elle est dans la sphère russe. Compte tenu des difficultés d'Alliance Atlantique, même des problèmes éventuels du côté des États baltes, l'Ukraine, elle doit se débrouiller avec la Russie. C'est clair. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr qu'il y aura une grande différence entre Trump et Clinton.
Vincent Hugeux.
L'empressement de Petro Poroshenko, oui. Le président ukrainien, à dire qu'il ne peut pas imaginer qu'il sera lâché par ses partenaires habituels, prouve assez son inquiétude. Une inquiétude qui est fondée. Et il me semble que, d'ailleurs, s'il y a très prochainement, dans quelques jours, un sommet entre l'Union européenne et l'Ukraine à Bruxelles, eh bien, ce sera l'occasion, effectivement, pour le même Poroshenko, d'implorer ses alliés européens de réaffirmer leur fermeté vis-à-vis du très inquiétant parrain moscovite.
Cela dit, attendez, l'amitié Trump-Poutine va faire pchit.
Oui.
Elle va faire pchit. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Vladimir Poutine et Donald Trump vont se rencontrer, Vladimir Poutine va lui dire « Tu es mon ami. Bien sûr, je suis ton ami. Il faut que tu me donnes des preuves d'amitié. » Ben, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, il faut que tu parles avec Bachar el-Assad en Syrie. Il faut que tu acceptes que la Syrie, c'est une affaire. Qu'est-ce que va faire Donald Trump? Qu'est-ce qu'il pourra faire? Qu'est-ce qu'il va répondre? Il peut répondre oui, mais alors, le prestige des États-Unis, on pourra se faire un sacré coup.
Qu'est-ce que vous pensez, Philippe Moreau-Desfarges, là aussi, de l'élection? C'était dimanche dernier, l'élection présidentielle en Bulgarie et en Moldavie, donc deux pays européens, l'un dans l'Union européenne, l'autre proche de l'Union européenne, l'élection de président pro-russe.
Parce que ils suivent le cours de l'histoire. Vous savez, les peuples s'adaptent aux circonstances. On le voyait très bien dans les années 30. On voyait les peuples d'Europe centrale et orientale qui regardaient entre l'Angleterre et la France et l'Allemagne. Oui, et l'Union soviétique. Et c'est tout à fait logique. Il y a en ce moment un sentiment d'abandon et il y a le pari que la politique Trump sera quand même une politique de repli. Et donc, on se prépare à ça en prenant des présidents favorables.
Vincent Hugeux.
Il faut toujours être attentif au lexique. J'ai été marqué par le fait que Vladimir Poutine, s'agissant de Roumen Radev, le nouveau président bulgare, a dit qu'il fallait renforcer la coopération avec la Bulgarie et le peuple frère.
Oui.
J'ironisais tout à l'heure sur le lexique soviétique. Vous voyez qu'on n'en est pas très loin. Et il y a encore mieux. À propos de Igor Dadon, qui vient d'être élu président
de l'autre côté,
en Moldavie, oui. Qui est ce petit pays assez pauvre, 3,5 millions d'habitants, coincé donc entre l'Ukraine
et la Roumanie.
Eh bien, il disait il va falloir normaliser nos relations. Voilà quand même, si on se souvient de Prague et Budapest, un choix de vocabulaire qui fleure bon l'ancien.
D'autant qu'il y a un petit bout de la Moldavie qui échappe au contrôle de Kitchino, la capitale, justement, qui s'appelle la Transnistrie, où il y a des chars russes et il y a 1000 soldats russes depuis maintenant presque 25 ans. Hein. Voilà, il faudra surveiller ça. On va se retrouver dans un instant, 7 jours dans le monde. Qui va reprendre dans un instant sur BFM Business? Oui, l'assaut qui se poursuit sur Mossoul. Et puis, jusqu'où iront les purges lancées par le président turc Erdogan? On va retrouver Vincent Hugeux de l'Express et Philippe Moreau-Desfarges, chercheur à l'IFRI. À tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Vincent Hugeux, les profiter du week-end pour aller voir en livre de poche Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames. Oui, les First Ladies du continent africain. C'est bourré d'anecdotes, bien sûr. Et avec nous également Philippe Moreau-Desfarges, chercheur à l'IFRI, auteur de La géopolitique pour les nuls, l'histoire du monde pour les nuls. Deuxième mois d'offensive sur Mossoul. Évidemment, ça ne nous quitte pas dans 7 jours dans le monde. On en parle de façon hebdomadaire, bien sûr. Avec les forces spéciales irakiennes qui continuent leur progression depuis l'est de la ville en direction du centre, avec des combats acharnés car les terroristes de Daesh ne leur laissent aucun répit, multipliant leurs attaques kamikazes. Tenez, cet officier irakien.
Combattre dans ces quartiers, c'est très difficile. C'est la bataille la plus difficile que l'armée ait eu à mener. Parfois, on se bat dans la même maison. On est dans une pièce, Daesh dans une autre. Et on va les tuer.
Ouais, mais Vincent Hugeux, ça va être long, évidemment. Les combats, ils sont loin d'être terminés. Comment est-ce qu'ils progressent? Comment est-ce qu'elles opèrent, ces forces spéciales irakiennes, cette fameuse Golden Division, donc, qui est arrivée par l'Est,
On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. On connaît la vieille maxime. On est dans l'équivoque absolu. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une sorte d'objectif qui paraît écrasant, qui s'impose. La reconquête de la deuxième ville d'Irak, Mossoul, par ailleurs fief, bastion, je dirais presque historique, du fameux califat de al-Baghdadi. Mais l'enjeu véritable, il n'est pas tant celui-là. Ce sera long, ce sera compliqué, ce sera coûteux en vies humaines, civiles et militaires, mais ils finiront bien sûr au regard du rapport de force militaire par être délogés, les gens de Daesh. Mais l'enjeu n'est pas celui-là. L'enjeu, c'est... Qu'advient-il après ?
Le contrôle.
Oui, du contrôle. Nous avons publié, il y a deux ou trois semaines dans l'Express, un entretien que j'ai trouvé particulièrement éclairant de Pierre-Jean Luisard, un chercheur français qui est extrêmement familier de cette région. Et pour pointer simplement deux des pièges de Mossoul après, le jour d'après, citons la Turquie. La Turquie continue de considérer, et d'ailleurs, on y reviendra, mais Erdogan l'a dit il n'y a pas si longtemps, que Mossoul fait partie de ce qu'il appelle ses frontières de cœur. C'était effectivement une partie de l'Empire ottoman au temps de sa splendeur. Et les Kurdes, que dire des Kurdes, qui sont évidemment des acteurs éminents dans la reconquête pied à pied, pas à pas, de l'entourage de la ville et de la ville elle-même. Eh bien déjà, ça y est. Vous avez les belles professions de foi unitaires qui volent en éclats. Il y a eu, il y a quelques heures, un échange assez rugueux entre Massoud Barzani, donc le patron de la province autonome du Kurdistan d'Irak, et le Premier ministre Al-Abadi, qui lui, évidemment, qu'on le veuille ou non, est un inféodé à Téhéran et aux Iraniens.
Donc, je veux dire, et à Bagdad, pas... et il veut défendre l'unité de l'Irak aussi.
Voilà, donc attention à se focaliser sur « ils ont avancé », etc., etc.
Non.
C'est pas ça
l'enjeu. Le plus dur est à venir quelque part,
l'enjeu véritable.
L'enjeu politique. Combien de fois vous l'avez dit, Philippe hein?
L'enjeu ultime, c'est l'avenir des frontières du Moyen-Orient. Et les Kurdes sont, d'une certaine manière, les grands vainqueurs, veulent être les grands vainqueurs de l'opération.
Vincent Hugeux.
Voilà un autre élément qui illustre ce qui vient d'être souligné. Lorsque vous demandez à de vrais connaisseurs quel était le sentiment des habitants de Mossoul, des Mossouliotes vis-à-vis d'Aïch, eh bien, un chercheur comme Luisard vous dit, de toutes les villes conquises par l'État islamique, c'est celle où l'accueil a été le meilleur. 90% des acteurs des combats sont des gens de Mossoul, à la différence notable de ce qui se passe à Raqqa, où ce sont des volontaires djihadistes étrangers.
Voilà, qui sont détestés.
Et voyez, il y a déjà... Amnesty International qui est sur le terrain avec le courage qu'on lui connaît et qui pointe le doigt sur des exactions en représailles. Ah, c'était un village qui était tenu par Daesh, donc vous êtes complice. En plus, vous êtes sunnite, donc vous l'êtes par essence et par nature. Donc c'est tout ça qu'il va falloir traiter et ça va être incroyablement difficile.
Ouais, en attendant, 1,5 million d'habitants encore dans Mossoul qui sont terrés malgré l'appel des autorités irakiennes, et bien un certain nombre de civils tentent. J'allais dire évidemment, naturellement, de quitter la ville, de quitter les combats. Plus de 50 000 sont déjà partis de Mossoul. Est-ce que la catastrophe humanitaire guette avec des capacités de camps extrêmement limitées aux alentours, Philippe?
Oui, elle guette. Et notamment, ce qui est terrible dans ces combats, je vais dire une chose épouvantable, ce sont des combats de faibles. Si vous voulez, l'armée irakienne est faible. Même Daesh n'est pas véritablement très fort. Les Kurdes sont peut-être un peu plus forts. Mais on voit, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vainqueur clair. Il n'y aura pas de vainqueur qui soit capable de dire, désormais, c'est mon ordre qui s'impose. Et c'est ça la difficulté. Parce que notamment les Kurdes vont vouloir récupérer leur part du gâteau. C'est-à-dire quelque chose comme un État kurde.
Et là, il y a une certitude, c'est que l'État islamique recule. On a vu la cité antique de Nimrod qui a été reconquise à une trentaine de kilomètres de Mossoul. Mais c'est surtout l'après, comme disait tout de suite Vincent Hugeux.
Et surtout, attendez, pour l'humanitaire, ce que montre le Mossoul, c'est qu'il se passera la même chose qu'à Alep. Les gouvernements sont très cyniques.
Catastrophe humanitaire à venir ou pas? On a vu la moitié de la population syrienne quitter son domicile. On a vu également, je ne sais pas combien de réfugiés, de déplacés en Irak, 3 millions je crois de mémoire. Bon, Mossoul, c'est la prochaine.
La tragédie de l'affaire, c'est que là comme ailleurs, le sort des civils est une variable d'ajustement. Et d'ailleurs, c'est traité avec ce cynisme-là. Variable d'ajustement et éventuellement bouclier humain. Prétexte à d'autres exactions.
La Turquie, le pays voisin, bien sûr. Les purges, les arrestations se poursuivent. Le week-end dernier, c'était le patron du journal d'opposition, Cumhuriyet, un vieux quotidien fondé en 1924. Plus des responsables du parti pro-kurde, le HDP, donc, qui étaient arrêtés. Plus le limogeage tous azimuts de juges, de policiers, d'enseignants. Vincent Hugeux, vous avez consacré une enquête qu'on peut retrouver sur le site de l'Express. C'était il y a 3 semaines, à peu près. Après le putsch raté du 15 juillet, purge à tous les étages en Turquie. Qu'est-ce qui justifie exactement, réellement, cette répression? Le pouvoir qui ratisse large, c'est ce que vous écrivez.
Deux phénomènes. D'abord, la frayeur existentielle qu'a éprouvé le clan Erdogan. Le putsch est une réalité, ce n'est pas une fiction, et il est vrai que...
Il y a eu des scènes de guerre.
15 juillet 2016, le trône de sa majesté Erdogan Ier a vacillé, il a tremblé. Et donc je dirais que la brutalité de ce coup de filet est à la mesure de cette panique-là. La deuxième chose, et ça c'est plus de la science politique, c'est que le véritable projet d'Erdogan, c'est une présidentialisation à outrance du régime.
Donc un changement de constitution.
Pour ce faire, il a besoin d'ennemis. Donc évidemment, l'ennemi apparent, c'est Fethullah Gulen, ce prédicateur qui vit depuis des années maintenant en Pennsylvanie, dans une ferme locale, qui est présenté comme le cerveau du putsch en question, bien du putsch avorté. Mais également, et on le voit dans les arrestations, dans les procès, dans les purges, on vise le PKK, donc le Parti des travailleurs du Kurdistan, mais en l'occurrence, on vise tous ceux qui défendent la cause kurde. Vous avez par exemple une écrivaine qui s'appelle Asli Erdogan, étrange homonymie, qui encourt une peine de prison à vie, simplement parce qu'elle a écrit dans des journaux qui défendaient la cause des civils kurdes. Donc, dernier point, pour essayer justement de comprendre les racines de ce qui apparaît aujourd'hui comme une fuite en avant, hein, avec au passage un bras d'honneur à l'Union européenne et à ses exigences. Bien. Dans un discours très récent, à l'occasion du 78e anniversaire de la mort de Mustafa Kemal, Kemal Atatürk, hein, le père des Turcs, le prophète en quelque sorte de la Turquie moderne et laïque, eh bien, à la faveur donc de ces cérémonies, Erdogan a dit qu'il fallait, d'une certaine manière, thématique connue en France, reprendre et revoir le récit national, jusque dans les manuels d'histoire du primaire. Et c'est là qu'il a parlé de la différence entre les frontières physiques et les frontières du cœur. Et dans les frontières du cœur, on retrouve Mossoul, nous le disions à l'instant, mais aussi Alep. Donc vous voyez, il y a vraiment un projet politique. Je prends appui sur un accident de l'histoire pour essayer de nettoyer tout ce qui va à l'encontre de mon projet.
Tout ça est anticipé. Simplement, juste, je reviens sur cette révision de la Constitution, parce que pour poursuivre votre réflexion, il a besoin de toutes les voix pour changer la Constitution. Il a besoin de montrer les muscles pour faire des yeux doux à la droite nationaliste. Il a besoin de ces voix-là. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il grossit le trait, qu'il accentue un petit peu la répression.
Il va de soi que par la loi des 3/5, qui est nécessaire à l'obtention du référendum, qui sera évidemment un triomphe de nature plébiscitaire, hein, sur la réforme constitutionnelle, il a besoin de l'appui au Parlement du MHP, qui est ce parti ultranationaliste, qu'on peut dire très simplement d'extrême droite. Et donc il lui donne des gages. Les gages, c'est évidemment la lutte contre les Kurdes, contre l'autonomisme kurde. C'est également l'idée qui est en train de flotter à Istanbul, encore et ailleurs, d'une restauration, d'un rétablissement de la peine de mort.
Oui, bien sûr.
Qui est pleinement souhaitée par le parti en question.
Une phrase.
Allez-y.
Parce que Erdogan ne peut que perdre. Il ne peut que perdre. Parce que toute sa politique est une fuite en avant et qui ne s'arrêtera pas, va durcir la cause kurde et va donner aux Kurdes une formidable volonté de résistance.
Vincent, vous avez très bien expliqué, mais simplement, voilà, l'obsession, quelque part, de lutter contre le terrorisme. Oui, souvent, ce sont les Kurdes hein, qui sont mis sous l'étiquette terroriste. Même si ces Kurdes, en effet, commettent un certain nombre d'attentats et d'attaques en territoire turc. Évidemment, on ne le nie pas. La crainte, en effet, qu'à un moment, il y a un morceau du territoire turc qui puisse échapper au pouvoir central, au profit des Kurdes, réunis peut-être un jour entre les Kurdes syriens, Kurdes irakiens, Kurdes de Turquie. Très bien. L'histoire aussi, le coup d'État, avec en effet de vraies scènes de guerre, des combats à Ankara, des combats à Istanbul. Est-ce que tout ça justifie quand même ces dizaines de milliers de limogeages, ces dizaines de milliers d'arrestations? Ce que vous expliquez dans l'Express, on envisage la construction de 174 maisons d'arrêt, histoire d'accroître de 100 000 places la capacité pénitentiaire. Est-ce que tout ça n'est pas un prétexte, un gros prétexte peut-être, mais un prétexte.
Et on a libéré, alors sous contrôle judiciaire officiellement, plus de 38 000 détenus pour faire de la place pour les autres.
Ah oui.
Mais bien sûr, mais l'image qui vient à l'esprit, c'est celle d'un chalutier qui jetterait ses filets au maillage extrêmement serré pour ratisser tout ce qui ne nage pas droit et éventuellement, le moment venu, relâcher le menu fretin. Donc, oui, il y a quelque chose d'absolument kafkaïen. J'ai rencontré, par exemple, dans un des faubourgs d'Istanbul, un enseignant. Il payait quoi? Il a été pris dans la rafle, dans un décret qui donne nommément ceux qui sont exclus de la fonction publique. Eh bien, sans doute, mais c'était l'hypothèse qu'il émettait, deux choses. Il avait contracté, voilà quelques années, un prêt pour une opération immobilière très simple, l'acquisition d'une maison, auprès d'une banque, la banque Asia, qui est réputée être un repère des gulenistes.
Oui.
Le fait d'avoir été abonné à la revue Zaman, qui était elle-même effectivement proche de Fethullah Gulen, suffit. Mais le pire de tout ça, et ça explique d'une certaine manière, c'est peut-être ça le ressort de cet acharnement, de cette outrance dans la répression, c'est que n'oublions pas que Erdogan et son système doivent beaucoup à Fethullah Gülen. Lorsqu'il arrive au pouvoir, notamment comme Premier ministre avant d'accéder à la présidence, il faut bien peupler les cabinets, etc. Il va puiser dans le vivier des universités, des instituts préparatoires, etc., puisque c'était un peu l'élite turque. On se dit d'ailleurs à Istanbul qu'un de ses fils est passé par une des écoles préparatoires de Gülen. Et donc, d'une certaine manière, il doit d'autant plus cogner fort que Gülen n'est pas du tout étranger à l'aboutissement de son projet politique.
Oui, Philippe Moreau-Desfarges.
À nouveau, Erdogan perdra. Et là, dans cette affaire que décrit, que raconte Vincent Hugeu, il détruit l'État turc. Quelque part, il détruit l'État turc.
Oui, mais justement, parlons de l'éducation, justement, les écoles, les universités. Cette enquête du Monde, cette semaine, 30 000 enseignants suspendus depuis le 15 juillet. Une reprise en main qui avait déjà démarré avant un objectif, disait Le Monde, le quotidien Le Monde, former une génération pieuse. Il n'y a pas que la répression contre, après le coup d'État, même si je vous expliquais, en effet, dans l'Express, Vincent Hugeu, que c'est un cadeau de Dieu, justement, cette tentative de coup d'État du 15 juillet.
Expression employée par Erdogan, lui.
Voilà, voilà, avec presque 300 morts, oui. Mais quand même, il y a des arrière-pensées. Le fait de faire une génération pieuse, en clair, une génération islamiste.
Un projet global.
Nous avons également publié sur le site de l'Express, au même moment, un entretien avec Ahmet İnsel, qui est un économiste, politologue et libraire, d'ailleurs, qui a vraiment la double culture française et turque. Et il disait qu'au fond, le projet de Erdogan était plus ultranationaliste que vraiment islamiste. Même si le Kulturkampf à la turque, il procède, et c'est toute l'ambiguïté. Et je reviens à la figure tutélaire de Mustafa Kemal, c'est-à-dire que, au fond, il ne va pas liquider explicitement l'héritage laïque du kémalisme et la modernité, mais en fait, il se pose presque en rival historique, comme le deuxième père de la Turquie.
Exactement, exactement, exactement.
Et ça va même au-delà, hein, puisque on voit donc le corps des diplomatiques a été purgé, le Monde des affaires. Juste d'un mot, puisqu'on est sur BFM Business, Vincent Hugeu, avec le placement sous tutelle de puissants conglomérats confiés à des businessmen dociles, une erdoïsation de l'économie.
İnsel soulignait, c'est-à-dire que le fait, par exemple, de purifier, en quelque sorte, la grande centrale patronale turque, qui s'appelle Tuscon, de beaucoup de ses cadres, c'est une manière de remettre, en quelque sorte, sur le marché de grands conglomérats qui sont évidemment confiés, on l'aurait parié, à des gens réputés sûrs par le régime.
C'est ce qui s'est passé dans l'Allemagne hitlérienne après le complot du 20 juillet 44. C'est, si vous voulez, on voit bien que le choc du tentative du coup d'État crée
la tentative de demeure d'Hitler.
Oui, de tuer Hitler. Et on voit bien qu'il y a une espèce de fuite en avant et de totalitarisation de la société.
7 jours dans le monde va reprendre dans un instant sur BFM Business avec Philippe Moreau-Desfarges, avec Vincent Hugeu à suivre. Est-ce que les États-Unis pourraient se retrouver devant la Cour pénale internationale pour des faits de torture, donc, à la suite de l'invasion de l'Afghanistan? Et puis, la rue qui gronde en Corée du Sud. À tout de suite.
BFM Business, 7 jours dans le monde. BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et pendant encore quelques minutes, la suite, la fin de 7 jours dans le monde avec Philippe Moreau-Desfarges et Vincent Hugeu de l'Express. Alors la guerre en Syrie, en Irak, hein, on vous en parlait tout à l'heure, théâtre d'horreur, de violence en tout genre, hein. Comme l'avait été, eh bien, au début des années 2000, l'Afghanistan, justement. La CPI, elle enquête maintenant depuis une petite dizaine d'années, hein, sur des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre commis dans la région par les talibans, par les forces de police afghanes. Mais c'est nouveau, puisqu'un document, donc, révélé cette semaine, révélé lundi, révèle que la procureure de la CPI pourrait se pencher sur des cas de torture, de violence, de viol de la CIA, de l'armée américaine. Une centaine de cas auraient été répertoriés. Vincent Hugeu, la CPI, elle enquête sur quoi exactement? Ce sont ces fameuses prisons secrètes de la CIA qu'on trouvait dans l'Est de l'Europe, en Pologne, en Roumanie, dans les États baltes, en Lituanie, je crois.
Les centres de détention clandestins, les enquêtes préliminaires porteraient sur des événements survenus en 2002 et 2003 notamment. Et tout ça s'inscrit dans un contexte où la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye, fragilisée par le départ de plusieurs États africains, a besoin d'une certaine manière de restaurer son image en montrant qu'elle n'accable pas uniquement
les
spots élus ou pas du continent.
Mais ça pourrait aller jusqu'au bout, les États-Unis pourraient se retrouver devant
Never.
Ouais, c'est bien ce qui me semble.
Jamais, jamais les Américains ne lâcheront, bien ne sûr. Livreront un seul de leurs militaires ou de leurs agents. C'est un point de doctrine qui n'a rien à voir avec l'identité du président qui siège à la Maison Blanche. Et d'ailleurs, au passage, aux États-Unis, on considère que la CPI, c'est très bien pour les autres. Hein, précieux, pour reprendre l'expression de John Kerry lui-même. Parce que la Russie et les États-Unis, ne l'oublions pas, n'ont jamais
signé,
ratifié
bien sûr,
le statut
bien
de Rome,
sûr.
Qui est le texte fondateur de la CPI. Un dernier point. Qui écrit en 2002 à Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies, une lettre pour signifier le retrait des États-Unis du processus, un certain John Bolton qui figurait parmi les favoris pour le Département d'État, voilà quelques jours.
Voilà. Ce qui ressort de ce document, Philippe Moreau-Desfarge, c'est que c'est au plus haut niveau de l'administration américaine que ces actes de torture auraient été décidés au début des années 2000. J'ai envie de demander, mais qu'ont fait les autorités américaines depuis, qu'a fait Barack Obama, qu'ont fait les Roumains, qu'ont fait les Lituaniens, qu'ont fait les Polonais, justement, pour dénoncer ou poursuivre ces crimes ensuite?
Pas grand-chose, mais j'ai envie de dire que quand Vincent Rougeau dit « never », moi je serais beaucoup plus prudent. C'est vrai que la CPI est très déstabilisée, notamment par le départ des États africains, notamment d'Afrique du Sud, et puis par la contestation de la Russie. Mais il peut y avoir une tentation de fuite en avant, et le procureur général peut avoir cette capacité de lancer une action contre les États-Unis. Bien sûr, il n'y aura pas de ressortissant américain devant la CPI, mais il y a une volonté de lancer ça. Je vous rappelle, il y a quelques années, il y a un roman qui s'appelle « The Ghostwriter », par Robert Harris et dont Roman Polanski.
Formidable.
Formidable.
Et Pierce Brosnan, non.
Tony Blair
dedans.
Exactement. Voilà. Ça retrouve devant la CPI. Ouais. Alors que tout est fait pour empêcher cela. Ouais.
On va terminer, hein, puisqu'il nous reste 4 minutes avant de nous quitter ce matin, ce soir. La fronde qui prend de l'ampleur en Corée du Sud contre la présidente Park Geun-hye. Une cote de popularité digne de celle d'un président français, donc quelques pourcents, hein. Et puis 1 million de manifestants le week-end dernier, donc à Séoul, 1 million quand même sur 50 millions d'habitants, pour réclamer son départ. Énorme rassemblement donc dans les rues de Séoul. Hein. Park Geun-hye, elle est engluée dans un scandale politico-financier qui est centré sur une vieille amie, hein, qui la suit maintenant depuis une quarantaine d'années, accusée d'avoir usé de son influence pour favoriser les grands groupes industriels sud-coréens, vous savez, les grands conglomérats, ceux qui font la force de l'économie sud-coréenne, moyennant des pots de vin de quelques dizaines de millions de dollars. D'ailleurs, les patrons de Samsung, de Hyundai, de LG ont été interrogés. La présidente devrait l'être d'ici quelques jours. Elle a 1 an de la fin de son mandat. Est-ce qu'elle peut être destituée, Philippe Moreau-Desfarge, elle qui avait gagné en 2012 justement sur le thème de la lutte contre la corruption?
Mais c'est tout à fait possible. Attendez, la Corée du Sud d'abord est un pays authentiquement démocratique et il y a eu des précédents où il y a eu des présidents qui ont dû partir du pouvoir. Donc il y a une véritable démocratie. Et puis il ne faut pas oublier que la Corée du Sud vit sur une tension extrêmement forte. Elle est à l'ombre de la guerre. En nord, il y a cette sœur extrêmement dangereuse qui est la Corée du Nord. Donc vous avez une société qui est presque chauffée à blanc. En outre, c'est une société qui a été élevée dans l'idée de compétition permanente.
Dès l'école.
Les enfants, c'est une société dans laquelle le taux de natalité s'effondre parce que on se focalise sur l'enfant qu'on doit élever, qu'on doit éduquer. Donc l'hypothèse d'une destitution de la présidente est tout à fait possible.
C'est un pays qui n'est pas aussi paisible que ça, finalement.
Il n'a jamais été
paisible. Pays de tension.
Il n'a jamais été paisible. C'est un pays d'abord divisé. C'est un pays qui a été marqué par l'occupation japonaise, par la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a toute une par une guerre de Corée.
Par la dictature pendant une bonne trentaine d'années, jusqu'en 87.
Et en outre, ce qu'on ne veut pas voir en Europe, c'est que c'est un pays authentiquement démocratique. Maintenant, il y a une démocratie qui est vivante.
Vincent Hugeux de l'Express.
Le ressort de cette colère populaire, qui est quand même la plus spectaculaire depuis les grandes manifestations pro-démocratiques de la fin des années 1980.
C'est après la dictature,
la gravité du phénomène. C'est-à-dire qu'au-delà du caractère romanesque de l'amie de 40 ans, qui serait, paraît-il, la conseillère chamanique, puisqu'elle était elle-même la fille du créateur d'un culte qui unit le christianisme, le bouddhisme, le chamanisme, et qui était devenu le mentor de l'actuelle présidente Park à l'assassinat de sa mère en 1974. Mais au-delà de ça, les pratiques que vous évoquiez tout à l'heure, c'est encore plus grave. C'est-à-dire qu'en fait, l'intéressé aurait usé de son influence auprès de la présidence pour convaincre les grands groupes que vous citiez, dont effectivement Hyundai et Samsung par exemple,
LG, ouais.
De verser des sommes colossale dans des fondations pour le moins douteuses, ce qui, à l'arrivée, était un enrichissement personnel de l'intéresser. Un seul exemple, une anecdote. C'est ainsi qu'a été financé le séjour d'une fille de cette Madame Choi, donc l'âme d'année de la présidente Park, un séjour en Allemagne pour sa formation à l'équitation. 2,8 millions d'euros. Si avec ça, elle ne décroche pas une médaille d'or aux prochains Jeux Olympiques, c'est à désespérer des chevaux et de ceux qui les montent.
Pays où la corruption règne depuis la...
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, corruption endémique des élites, de l'affairisme également, avec une classe moyenne qui est en train de souffrir économiquement, parce que l'économie, bon, alors évidemment, avec un taux de croissance de un petit peu moins de 3%, c'est formidable, enfin, qui reste quand même un petit peu en panne.
Il y a des taux de croissance exceptionnels.
Résultat, bon nombre de Coréens sont démoralisés, et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans la rue. C'est pour ça qu'ils demandent la peau de leur présidente.
Attendez, il y a plusieurs inquiétudes. Il y a la situation économique, il y a la menace de la Corée du Nord. Et puis, il y a le rapport aux États-Unis. N'oubliez pas que l'élection de Trump est apporte une nouvelle très inquiétante.
Est-ce qu'il ne va pas les laisser tomber?
Exactement.
Comme les Japonais.
S'il les laisse tomber, quelle défense ont-ils?
Allez, le mot de la fin, Vincent Hugeux.
Depuis lors, évidemment, ayant mesuré l'ampleur du désastre, Madame Park n'en finit plus de battre sa coulpe. Elle se reproche son manque de vigilance, son excès de confiance, etc. Il y a un problème constitutionnel. Elle ne peut pas être a priori incriminée puisqu'elle est couverte par une sorte d'immunité. Mais, dans une enquête à spectre large, il n'est pas impossible qu'il y ait une audience. Et d'ailleurs, l'effort qui est entrepris en ce moment, c'est de la contraindre à se rendre à une audience.
Peut-être la semaine prochaine. Voilà, elle pourrait être entendue la semaine prochaine. Merci à tous les deux. Merci Vincent Hugeux, on le rappelle, grand reporter à l'Express, auteur de Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames, en livre de poche. Autre livre, évidemment, c'est la géopolitique pour les nuls. En poche également. Voilà, prenez l'un et l'autre, chacun dans une poche. Philippe Moreau-Desfarges, chercheur à l'IFRI. 7 jours dans le monde, c'est fini. Vivement la semaine prochaine.
BFM Business, 7 jours dans le monde.